Je devais accueillir Lola Gruber pour son livre Orne venait la nuit, et Louis Chevalier pour les Jeux Olympiques de la littérature. Et puis ils m'ont dit, on a envie de venir ensemble. Alors, pourquoi ?
C'est une histoire comme une autre, mais vous allez rentrer dans votre intimité. Non, non, moi j'ai été éditeur pendant 13 ans et il se trouve que j'avais reçu un livre de Lola Gruber par la Poste. Nous sommes rencontrés par la Poste, qui pour moi, qui s'appelait Trois Concerts. Et j'ai dirigé Folio pendant 8 ans, je me suis occupé de Phébus pendant 5 ans. Et pour moi, c'est un des plus beaux livres qui est apparu en littérature française. Et donc, en tant qu'éditeur, jamais je n'aurais courtisé une autrice. Mais après, j'ai arrêté l'édition et on s'est vu. Et comme j'étais tombé amoureux de sa littérature, je suis tombé amoureux d'elle ensuite. Voilà, mais c'est pour vous dire à quel point c'est un grand livre, Trois Concerts. Et donc, là, c'est le suivant qui est aussi grand, mais mon avis est un peu moins objectif parce que je la connais. Voilà, et donc comme, si vous voulez, nous vivons ensemble ou presque, parce que nous avons deux appartements et que nous avons écrit parallèlement ces deux livres et que, sincèrement, on les a relus attentivement l'un et l'autre, on les connaît, donc on peut passer ensemble.
On est experts chacun du livre de l'autre, faut le dire, avec ça de qualité qu'on peut leur reconnaître réciproquement, qui est que
c'est que le livre de Louis, qui s'appelle donc « Les Jeux Olympiques de littérature », s'occupe des concours de littérature qui ont eu lieu parmi d'autres concours artistiques pour l'Olympiade de Paris 1924, et que moi je m'intéresse à peu près autant au sport que Louis aime l'Europe centrale, la Hongrie et la Tchécoslovaquie, qui sont au cœur de Orne venait la nuit, et que ça nous permet aussi de voir que le sujet est en fait finalement secondaire dans ce qu'on aime, ce qu'on retient d'un livre ou ce qui peut changer dans le plaisir qu'on a à lire, quoi. Le sujet est en fait une chose pas très importante, il me semble,
qui peut l'être, par rapport au traitement. Mais la forme et le geste finalement le sont aussi.
Oui, mais on prend un sujet et puis ça nous permet de parler d'autres choses. C'est vraiment pas simple. On aurait mieux fait de parler directement d'autres choses.
Mais non, c'est la magie de la fiction, justement. On va parler un petit peu de vos livres. Orne venait la nuit, Lola Gruber. Alors, vous avez deux entrées, en fait, dans ce livre avec deux personnages. Simon, qui, à un moment de sa vie, va partir en quête de ses origines en Europe de l'Est. Et puis Ilse, qui au même moment est à Berlin, une femme plus âgée, et qui va explorer sa mémoire, en fait. Donc vous traitez parallèlement les deux. Je vais vous demander de présenter ces deux personnages, c'est-à-dire Simon et Ilse.
Simon est un personnage, c'est un jeune homme pas très constitué, un peu timoré, qui, se demandant un peu qui il est, a une double mauvaise nouvelle, parce qu'il perd en même temps son travail, et dans la foulée, il est quitté par sa compagne. Deux choses qui sont un couple comme un travail sont des choses très constitutives dans une identité, et déjà qu'il avait un peu de faiblesse de ce côté-là, ça va faire basculer son destin, dans le sens où l'avenir devenant vraiment très incertain, il décide de se tourner vers le passé, et ce passé qui est celui de sa famille et qu'il connaît très peu se trouve d'abord en Tchéquie, mais ça va petit à petit l'emmener jusqu'à Budapest. Et ça va l'amener à croiser aussi des événements de la vie de quelqu'un d'autre, peut-être lié à la sienne, qui est Ilse, qui reçoit une lettre qui la bouleverse alors qu'elle a un certain âge et qu'elle a changé plusieurs fois de pays, dans des pays qui eux-mêmes ont changé plusieurs fois de nationalité.
Alors, on la trouve au début du livre, elle est adolescente.
Et elle naît
à quelle période à peu près ?
Elle naît vers 36, 37, 38. Ses souvenirs à elle ne sont pas très fiables. À Bratislava, qui est à l'époque en Tchécoslovaquie, mais qui ne va pas l'être longtemps, vu que la Slovaquie, pendant la Seconde Guerre mondiale, devient un État indépendant sous la coupe de l'État nazi, contrairement à la Bohème-Moravie, qui est la Tchéquie. Et elle, par-dessus le marché, vient d'une famille allemande. Il y a une très grande communauté allemande à Bratislava, donc elle va voir toute sa famille peu à peu exploser et va devoir recommencer une vie dans ce qui va être la Tchécoslovaquie communiste.
Alors vous maîtrisez parfaitement et la période et la géographie finalement, celui, c'est absolument fascinant. Donc il y a ce côté Ilse, donc dont on va traverser un peu la destinée, et puis Simon aussi qui lui traverse l'Europe de l'Est d'une certaine manière. Comment vous avez travaillé ? Vous êtes documenté énormément, c'est sûr, parce que ce livre, il est assez fascinant, qu'il est d'une précision très intéressante pour le lecteur. On est complètement immergé. Alors, il est imposant, mais en fait, c'est un des bonheurs de la lecture aussi, c'est qu'on est enveloppé par ce livre. Et puis, il est très bien charpenté, parce qu'en fait, il y a l'histoire d'Ilse. On reviendra sur le personnage de Horn après. Et il y a aussi cette quête ou cette enquête sur sa propre famille que fait Simon, qui vous utilisez tous les truchements de la fiction. Il y a des secrets, il y a des fausses pistes. C'est incroyable comment voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un travail de charpentier que vous avez fait.
Ou de l'idée c'est que c'est un puzzle entre ces deux histoires, mais un puzzle dont les pièces correspondent pas forcément, ce qui bizarrement est beaucoup plus difficile à concevoir qu'un puzzle où tout rentrerait très bien, etc. Parce que je pense que dans la vie, c'est pas comme ça. Il manque un élément où on ne sait pas où va cette pièce. Et donc, j'ai travaillé d'abord très longtemps pour faire un plan. Et après, je me suis lancée. Puis j'ai passé pas mal de temps dans les pays que ça décrit, qui même s'ils ont beaucoup changé, on retrouve encore des choses qui n'ont absolument pas changé. Ce qui est le cas des théâtres, par exemple, parce que le théâtre prend une place assez importante dans ce livre. Et il s'agissait de pas forcer les choses, mais d'attendre de trouver les éléments intéressants dans cette histoire qui puissent s'insérer dans cette histoire-là.
Oui, il faut comprendre que Lola est une... Parce que, comme je l'ai vu travailler sur ce livre, Lola est une pure romancière. C'est devenu sincèrement assez rare. Les purs romanciers sont des gens qui vivent avec leurs personnages. Lola s'abstrait pendant des années, elle n'écrit pas, elle se documente et puis elle imagine peu à peu la chose et puis lorsqu'elle commence à écrire, le livre est déjà prêt, donc elle écrit assez vite, mais pendant elle vit avec ses personnages, c'est assez fatigant, si vous voulez, en tant que conjoint, d'avoir quelqu'un qui vit avec des personnages imaginaires, vous imaginez la concurrence est totalement déloyale, désagréable, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et si vous voulez, donc il y a cette puissance romanesque, c'est des fresques. Vous savez, comme Pasternak écrit des fresques. Ces très grands romans, Toto, où vous vous immergez, où il y a beaucoup de personnages qui ont des liens, où vous sortez de là, vous êtes triste de les avoir perdus. Voilà, c'est ça, moi, que j'aime en tant que roman, pur roman. Voilà.
Alors, on parle de personnages tristes, de laisser. C'est vrai, c'est ça, en fait. On est tellement enveloppé par ce récit. Il y a le personnage de Horn, qui est fascinant, qui est troublant. Comment vous l'avez bâti, ce personnage ? Donc, qui rend visite à Ilse, selon le titre. Et puis, bon, voilà, elle va avoir une histoire avec ce personnage intrigant.
Mais Horn, c'est un rescapé juif hongrois de la Deuxième Guerre qui est déjà presque un fantôme. Qui est un fantasme à moi, sans doute, mais presque un fantôme dans le sens où il n'est pas sorti complètement entier de cette guerre. Enfin, il y a des choses de lui qui sont détruites et il le sait, et qui est une espèce de bourreau des cœurs qui a l'air d'un gnome et qui ne cesse d'apparaître et de disparaître et derrière lequel tout le monde cavale, comme on cavale derrière un souvenir ou justement une partie du puzzle dont on serait soi-même une pièce et qui pourrait compléter cet être incomplet.
Puis quand il prend la parole dans le roman, moi je trouve que c'est très fort et très émouvant. Quand il se raconte un peu.
Et il se raconte beaucoup, ce dont il peut parler du passé mais pas du présent. C'est quelqu'un qui a aussi passé 3 jours ou 4 où il ne s'est pas enseveli sous les décombres d'une maison. À quoi on pense dans ces cas-là ou comment est-ce qu'on... Et c'est quelqu'un qui a pas vraiment beaucoup à offrir dans cette histoire d'amour avec cette toute jeune fille, mais ce qu'il peut offrir, c'est du récit. Et le récit qu'on te fait des choses occupe une place très importante dans ce livre, c'est-à-dire que est-ce qu'une vérité, c'est le récit qu'on en fait ? Et comment est-ce qu'on se structure par rapport à des récits, que ce soit dans une histoire amoureuse, mais aussi plus avant dans une famille, ou dans une toute autre échelle encore, comment un pays organise un récit national. C'est la même mécanique, et pour un romancier ou une romancière aussi, évidemment.
Oui, Simon aussi, finalement, écrit un peu le récit de son passé à travers son enquête sur ses origines.
Oui, parce qu'il a eu de son père que des récits, là encore, parcellaires. C'était mon cas. Moi, de la famille de mon père, il est resté très peu de choses, quasiment pas de photos, quasiment pas d'objets. Et donc, il y avait les récits de mon père, mais c'était déjà... Ils étaient assez incomplets, ils étaient déjà très romancés aussi. Souvent, ils se contredisaient. Donc, c'était un peu aussi, pour moi, l'envie de faire ce livre, c'est-à-dire qu'au lieu d'une vérité un peu douteuse, j'ai fait une vraie fiction.
C'est une vraie fiction, vraiment. Enfin, c'est une lecture très agréable et puis qui nous happe tout de suite. On a tout de suite envie d'avancer. Alors, il a balancé un peu sur le fait que vous faisiez beaucoup de recherches, vous vivez avec vos personnages. Est-ce que c'est la même histoire quand il écrit les Jeux Olympiques de la littérature?
Alors là, c'était un autre exercice parce que ces jeux qui ont, enfin, ces concours d'art qui ont effectivement existé, ont évidemment laissé des traces diplomatiques dans les archives. Que ce soit c'est le musée olympique, le centre d'études olympiques, mais aussi les archives diplomatiques, donc et la bibliothèque nationale encore, où des traces de tout cette aventure étrange des concours a laissé des traces. Donc ça a été, il y avait un petit travail de vrai enquêteur avec l'espoir d'en ramener quelque chose et des trouvailles. Moi je l'ai vu revenir avec des trouvailles. J'ai une lettre de Claudel, j'ai une faute où on a écrit en espagnol à des Brésiliens pour les.
Oui, non, c'est un. Si vous voulez, moi, je suis un lecteur compulsif. J'ai lu beaucoup, beaucoup dans ma vie. J'ai été éditeur, donc comme vous l'avez dit, je suis journaliste aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai appris par hasard cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu des concours d'art et de littérature aux Jeux Olympiques de 1912 à 1948. Et alors, c'est intéressant parce qu'on les a oubliés. Et vous savez, c'est cette chose étrange, c'est qu'en sport, on aime beaucoup les vainqueurs. Et en littérature, on aime bien les vaincus et les échecs. Je trouve qu'ils disent beaucoup de choses. Et c'est donc c'est l'histoire de cette tentative avortée. Il faut comprendre que Coubertin, c'est d'abord quelqu'un qui a écrit un roman, qui a écrit des livres, qui sont très mauvais d'ailleurs, voulait absolument lier le sport aux arts, parce qu'il pensait un peu comme à la mode antique que ça ferait des Jeux Olympiques un événement un peu sacré. Pas les Jeux du cirque, non, quelque chose de plus grave. Et donc ça a été très important pour lui, et le problème est que Coubertin est un homme du 19e siècle, et puis que les artistes de l'époque n'ont pas eu forcément envie de participer à ces épreuves. Et alors raconter ça, moi, si vous voulez, ce qui m'intéressait, c'était à la fois de raconter cette histoire et ce moment dans les années 20 où tout à coup le sport commence à devenir le spectacle principal, le spectacle sportif. Parce que vous savez, c'est cette chose aussi étrange, c'est qu'on parle beaucoup, on mélange beaucoup les deux. C'est-à-dire, les Jeux Olympiques, c'est du sport pour quelques milliers d'athlètes. C'est un spectacle pour des milliards d'autres. Et donc, si on veut parler des Jeux Olympiques, moi, c'est en tant que spectacle que ça m'intéresse. Et un spectacle, on sait ce que c'est, il y a le théâtre. Pourquoi est-ce que ce spectacle-là l'a emporté sur les autres? Pourquoi c'est devenu le principal spectacle, celui qui offre la communion la plus forte? Voilà, pourquoi ça a marché? À l'époque, si vous voulez, les stars sont les écrivains. Aujourd'hui, ce sont les sportifs. Lorsqu'il y a des écrivains qui le racontent, ils disent à l'époque dans les cafés, on se retourne sur Marie Curie ou sur Joffre, et tout à coup on commence à se retourner aussi sur Georges Carpentier. Et donc, si vous voulez, lorsque vous plongez dans les archives de cette époque, vous allez vous rendre compte à quel point il y avait des jeux d'écho entre les sportifs, les artistes. Un exemple parmi d'autres, si vous voulez, les premiers sprinteurs aux Jeux Olympiques ou les premiers lanceurs de disques, lorsqu'ils cherchent à savoir comment courir, ils regardent les vases antiques et ils prennent les positions sur les vases. C'est-à-dire, ça nous paraît aberrant. Ou alors, autre chose, cette histoire totalement folle qui est celle de Hume. Est-ce que, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent D'Annunzio ? Peut-être pas. Gabriele D'Annunzio, c'est un poète décadent italien qui a été un héros assez mythomane, d'ailleurs un héros de la Première Guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, il y a des négociations qui s'éternisent sur un certain nombre de villes. Est-ce qu'elles doivent revenir à la Slovénie ou est-ce qu'elles doivent revenir en Italie? Et il y a notamment Fiume à la frontière. Bon, D'Annunzio, en 19, part en décapotable rouge, suivi de quelques arditi, il va occuper Fiume. Et il va occuper Fiume pendant un an et demi. Et à Fiume, D'Annunzio va inventer à peu près l'essentiel du fascisme. Et ça, on l'a oublié, c'est très beau. Moi, je trouve que c'est très beau d'expliquer que la poésie peut sauver le monde. Il faudrait se souvenir aussi que c'est des poètes qui ont créé le fascisme. Ça permet de nuancer un tout petit peu les choses. Les futuristes, c'est D'Annunzio. Et D'Annunzio à Fiume, eh ben, à la fois, il invente le fascisme, mais tout ça dans une ambiance de cocaïne, de foxtrot et de naturisme. Et on a du mal aujourd'hui à relier le fascisme au naturisme. Mais ça a été le cas aussi du nazisme. Et c'est là aussi que D'Annunzio va faire des matchs de foot. Et dans ces matchs de foot, son équipe de Fiume porte un maillot bleu avec un blason. Et ce blason-là, c'est aujourd'hui le blason de la Squadra Azzurra. Bon, et si vous voulez, comme ça, on remonte et on se rend compte. Mais il y a sur plein de sujets. vous avez comme ça une sorte de chose qui s'est oubliée, de lignée, et c'est intéressé de revenir à ces sources-là.
Ouais, et cette évocation donc, de ces épreuves de littérature, elle permet, vous l'avez très bien dit, de peindre un tableau de ces années 20, ces années folles, puis la naissance du monde moderne aussi,